Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Hodiot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce lundi 16 novembre 2020. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal suivi d'un commentaire politique. La puissance de l'armée iranienne est incroyable, déclaration du haut commandant de l'armée irakienne. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, le conflit du Haut-Karabakh, aucun changement ne s'est produit aux frontières nord-ouest de l'Iran, assure la diplomatie iranienne. Décès du ministre des Affaires étrangères syrien, le chevronné Walid Mualem. Israël va construire plus de 1200 nouveaux logements à routes occupées. Les réactions et les condamnations internationales se multiplient. Et puis la Chine signe le plus vaste accord de libre-échange au monde. C'était les principaux titres que nous allons développer tout de suite dans ce journal. Restez avec nous. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré lundi qu'aucun changement ne s'était produit aux frontières nord-ouest de l'Iran. Le porte-parole a fait ses remarques lors de sa conférence presse hebdomadaire. En référence à un accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, après plusieurs semaines de conflits dans la région du Haut-Karabakh, près de frontières iraniennes. Déclarant qu'aucun changement n'est intervenu aux frontières, il a souligné que l'Iran n'accepterait jamais rien d'autre que ce qui a été annoncé par les deux parties. Khatibzadeh a ajouté que le couloir qui est devenu controversé ces jours-ci est simplement une route de transit, dont le cas est étroitement surveillé par le ministre iranien des Affaires étrangères. Il a ajouté que l'Iran se félicitait de tout règlement pacifique de l'affaire, comme il l'a fait au cours des trois dernières décennies. Des marins iraniens libérés en Tanzanie après 4 ans. 8 marins iraniens détenus en Tanzanie pendant 4 ans pour intrusion sont maintenant rentrés chez eux grâce aux efforts diplomatiques fructueux des autorités iraniennes. Les marins sont arrivés à Chobahar, au sud de l'Iran, lundi, après avoir été libérés par la Tanzanie la semaine dernière, a déclaré Hamid Reza Toussi, chef du bureau de représentation du ministère des Affaires étrangères dans la ville portuaire du sud de l'Iran. Le responsable a déclaré que leur libération était due au ministère et à l'ambassade d'Iran dans la plus grande ville africaine de Dar es Salaam et à l'engagement de son bureau dans les efforts diplomatiques et les négociations avec les autorités tanzaniennes. Les efforts de l'Iran, a-t-il ajouté, ont comporté de multiples réunions entre l'ambassadeur iranien et le président, le procureur général de la Tanzanie et d'autres autorités judiciaires. La Tanzanie détient toujours quelques 20 pêcheurs iraniens en détention, a noté M. Toussi. L'Iran se vengerait certainement de ceux qui ont assassiné le général Soleimani, déclaration du commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI. L'Iran se vengera certainement de ceux qui ont assassiné le général Soleimani et Abu Mahdi Mohandis, qui ont joué le rôle le plus déterminant dans l'élimination de la menace du groupe terroriste Takfiris Daesh dans la région, a promis le commandant en chef du CGRI. Toutes les forces américaines doivent quitter l'Irak conformément à une décision prise par le Parlement irakien, a déclaré cette haute autorité militaire iranienne. Les forces américaines doivent être expulsées d'Irak, conformément à la décision approuvée par le Parlement du pays. Et c'est aussi une demande publique de la part du peuple irakien. Ainsi, c'est dimanche le général de division Hossein Salami, lors d'une rencontre avec le ministre irakien de la Défense, le lieutenant général Juma Anad Saoudoun, en visite officielle à Téhéran. Le sentiment anti-américain est élevé en Irak depuis l'assassinat du très haut général populaire iranien Qassem Soleimani, le commandant de la force Quds du CGRI et son compagnon de lutte irakien Abu Mahdi al-Mouhandes, chef adjoint des unités de mobilisation populaire, dans une frappe de drone terroriste américaine menée sous l'ordre direct du président américain Donald Trump près de l'aéroport international de Bagdad le 3 janvier. Sachez d'autre part que les investisseurs allemands deviennent actifs dans les secteurs manufacturiers et miniers iraniens. Les entreprises allemandes s'engagent à investir 343 millions de dollars dans de nouveaux investissements dans les secteurs manufacturiers et miniers iraniens. De nouvelles données publiées par le gouvernement iranien montrent que les investisseurs allemands sont de plus en plus actifs dans les secteurs manufacturiers et miniers du pays, alors qu'il s'engage pour 343 millions de dollars de nouveaux projets dans le pays. L'actualité régionale avec la Syrie et le décès du ministre des Affaires étrangères Walid Mualem. Le ministre syrien des Affaires étrangères est décédé à 79 ans. Les causes de sa mort ne sont pas pour le moment précises. Ils étaient apparus très faibles en fin de semaine dernière. Le chef de la diplomatie depuis 2006, le chevronné Walid Mualem, était déjà en poste quand le conflit syrien a éclaté en 2011. Mualem était un diplomate chevronné qui a servi les missions diplomatiques syriennes en Tanzanie, en Arabie Saoudite, en Espagne et en Grande-Bretagne, avant d'être nommé ambassadeur en Roumanie en 1975. Il a été ambassadeur de Syrie aux États-Unis de 1990 à 1999. Le gouvernement syrien a annoncé lundi avec tristesse le décès à l'aube de ce vétéran de la diplomatie, je cite, « qui s'est fait connaître pour ses positions patriotiques honorables », selon un communiqué repris par l'agence de presse officielle Sana. Les obsèques auront lieu lundi après-midi à Damas, où il était né, a précisé l'agence. Les plans d'Israël pour la construction d'un plus grand nombre d'unités de colons en Cisjordanie occupée ont fait l'objet d'une condamnation internationale forte et généralisée. Les appels à l'arrêt des activités illégales se multiplient. Un coordinateur spécial de l'ONU a qualifié les plans israéliens de très préoccupants. Netanyahou utilise les derniers jours du mandat de son meilleur ami Donald Trump pour poursuivre cette initiative controversée. Le conflit au Haut-Karabakh, la Russie met en place un centre d'intervention humanitaire pour sécuriser les civils. Dans le cadre de l'accord de paix signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la Russie a commencé à mettre en place un centre d'intervention humanitaire dans la capitale du Haut-Karabakh, dans le but de garantir la sécurité des civils et des réfugiés. Les 2000 soldats russes de maintien de la paix qui ont investi la région contestée du Haut-Karabakh à la suite de l'accord de paix négocié entre les deux parties sous l'égide de Moscou ont commencé à mettre en place un centre d'intervention humanitaire à Estepanakert, la capitale régionale. Autre thème, la Chine signe le plus vaste accord de libre-échange au monde. 15 pays d'Asie et du Pacifique ont signé un important accord commercial. Le partenariat régional économique global devient l'accord commercial le plus important du monde en termes de produits intérieurs bruts. C'est une première. 15 pays d'Asie et du Pacifique ont signé dimanche 15 novembre un important accord commercial promu par la Chine à l'occasion de la clôture d'un sommet virtuel de l'ASEAN qui avait débuté jeudi. Ce partenariat régional économique global devient l'accord commercial le plus important du monde en termes de produits de l'intérieur brut, selon des analystes, et concernera plus de 2 milliards d'habitants. Direction l'Afrique, avec les tensions liées au territoire du Sahara occidental qui s'intensifient entre le Maroc et le Front Polisario. Mohamed Salem Ould Salek, le chef de la diplomatie de la République arabe sahraoui démocratique, a déclaré dimanche que des milliers de volontaires s'apprêtaient à rejoindre les forces armées sahraouies. Il s'agit là d'une réaction à l'opération militaire marocaine lancée vendredi dans la zone tampon de Guerregrat, menée pour ouvrir la route qui conduit vers la Mauritanie voisine. Après 3 semaines de blocage routier, la route a été débloquée samedi. En réponse, le Front Polisario a décrété l'état de guerre et la fin de cessez-le-feu signé en 1991 sous l'égide de l'ONU. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a tenu à rappeler l'importance de la tenue de cet accord. Enfin, le dialogue politique libyen sous l'égide de l'ONU doit s'achever dimanche après une semaine d'échanges directs à Tunis qui ont pour le moment abouti à un accord sur des élections nationales en décembre 2021, indiquait l'ONU. Le forum de Gamarat, près de la capitale tunisienne, rassemble 75 délégués de tous bords sélectionnés par l'ONU en fonction de leur appartenance géographique, politique ou idéologique, mais pas les principaux protagonistes. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. La puissance de l'armée iranienne est incroyable, déclaration du commandant de l'armée de l'air irakienne. Le commandant de l'armée de l'air irakienne, le général de division Samir Zaki Hussein, a qualifié la puissance des armées iraniennes d'incroyable et a déclaré « C'est une question de fierté pour nous en tant que pays amis et frères et voisins ». Le commandant de la division aéroportée de l'armée iranienne, le général Youssef Ghorbani, et son homologue irakien, le général Samir Zaki Hussein, se sont rencontrés dimanche à Téhéran. Les deux commandants ont discuté d'un éventail de sujets, y compris des moyens d'améliorer la coopération en matière de défense et de formation entre les deux parties et d'échanger les expériences et l'équipement dans l'industrie des hélicoptères. Le général irakien accompagne le ministre de la Défense irakien, le lieutenant général Juma Anat Saoudoun, lors d'une visite officielle à Téhéran. Lors d'une réunion avec son homologue irakien, samedi, le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, a exprimé la volonté du pays de renforcer la puissance de défense de l'Irak et de répondre à ses demandes d'équipement militaire. Sachez d'autre part que 20 milliards de dollars est le volume espéré pour les échanges commerciaux Iran-Irak. L'objectif de l'Iran et de l'Irak est d'atteindre un plafond de 20 milliards de dollars d'échanges par an, a déclaré le consul général de la République islamique d'Iran à Souleymaniyah en Irak. Mahdi Shouchtari, consul général de la République islamique d'Iran à Souleymaniyah, dans une interview avec la chaîne Souleymaniyah News Network SNN, a répondu à des questions sur divers aspects des relations économiques de la République islamique d'Iran avec le Kurdistan irakien et la province de Souleymaniyah. Lors de cette interview, le diplomate iranien a déclaré « Les présidents de la République islamique d'Iran et la République d'Irak se sont accordés pour atteindre un plafond de 20 milliards de dollars d'échanges par an entre les deux pays. » Concernant les relations économiques entre l'Iran et la région du Kurdistan irakien pendant la période de la pandémie du Covid-19, Mahdi Shouchtari a déclaré « Avec l'accord entre des responsables des deux parties, les échanges commerciaux pendant la période du coronavirus se sont poursuivis conformément à tous les protocoles sanitaires aux frontières irano-irakiennes. » Dans une autre partie de cet entretien, le consul général de la République islamique d'Iran à Souleymaniyah met en relief l'augmentation des relations entre l'Iran et les deux provinces irakiennes de Souleymaniyah et Halabja grâce à l'existence de plus de 600 km de frontières communes et l'activation des deux points frontaliers de Parviz Khan et Basmak et de 4 marchés frontaliers. En évoquant la catastrophe chimique de Halabja pendant la guerre imposée sous Saddam, le consul général de la République islamique d'Iran a ajouté « En raison de la position particulière de Halabja pour nous, nous sommes prêts à contribuer au développement de cette province. » M. Shouchtari a ajouté « Je réitère que la République islamique d'Iran, comme à diverses périodes historiques difficiles, telles que la catastrophe chimique de Halabja, l'opération Anfal du régime de Saddam et la guerre contre Daesh, restera toujours aux côtés du peuple du Kurdistan irakien pour soutenir la prospérité de cette région. »
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce dimanche 15 novembre 2020. Le secrétaire d'État américain a entamé depuis hier une visite à Paris. Lors de cette visite, il sera reçu par le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, et le président Emmanuel Macron. Jean-Yves Le Drian a déclaré que lors de sa rencontre avec Pompeo, demain, il fera part de l'opposition, en effet, de Paris au retrait unilatéral des troupes américaines présentes en Irak et en Afghanistan. Interrogé précisément sur l'accélération du retrait des forces américaines d'Afghanistan et d'Irak promise par l'administration Trump, Jean-Yves Le Drian a déclaré que c'était ce qu'il, je cite, ce qu'il ne faut pas faire. Des informations sur un éventuel retrait américain d'Irak ont aussi circulé récemment. Plusieurs sources politiques diplomatiques ont confirmé que Mike Pompeo avait lancé un ultimatum à l'Irak. Trump a déclaré début octobre qu'il voulait que toutes les troupes américaines, en effet, rentrent d'Afghanistan avant Noël, le 25 décembre. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette visite du secrétaire d'État américain à Paris. Alors, le retrait des forces américaines d'Afghanistan et d'Irak et, bien entendu, le rôle que la France pourrait jouer, justement, dans ces deux pays après le retrait des troupes américaines. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le gouvernement français dira au secrétaire américain Mike Pompeo en visite prochainement à Paris qu'un retrait des troupes américaines d'Afghanistan ou d'Irak serait une mauvaise idée, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Interrogé sur une éventuelle accélération du retrait des troupes américaines en Afghanistan, le ministre a répondu « ce qu'il ne faudrait pas faire à notre avis ». Ce qu'il ne faudrait pas faire non plus en Irak, on se le dira, lors de la visite de M. Pompeo à Paris de samedi à lundi, a déclaré le chef de la diplomatie française. À 69 jours de la fin de son mandat, le président américain Donald Trump, qui refuse d'admettre sa défaite électorale face à Joe Biden, vient de placer des fidèles à des postes importants du Pentagone dans le but apparent d'accélérer le retrait américain d'Afghanistan. Des informations sur un éventuel retrait américain d'Irak ont aussi circulé récemment. Début octobre, plusieurs sources politiques et diplomatiques ont confirmé que Mike Pompeo avait posé un ultimatum à l'Irak. Emmanuel Macron recevra lundi matin le secrétaire d'État américain Mike Pompeo en tournée en Europe et au Moyen-Orient, une rencontre réalisée à la demande de l'Américain et en toute transparence avec l'équipe du président élu Joe Biden, avait indiqué l'Élysée jeudi. Par ailleurs, le ministre irakien de la Défense a annoncé que le pays entendait acheter à la France des avions de chasse Rafale et des missiles à longue portée. Jouma Anad, ministre irakien de la Défense, a déclaré que sa récente visite en France était destinée à acheter des avions Rafale et des missiles à longue portée. Le ministre a également mis en exergue la décision de l'Irak de diversifier ses armements. La décision de Bagdad d'acheter des armes à la France sera examinée au Conseil des ministres, a-t-il indiqué. Le premier ministre irakien Mustafa Al-Kadhimi s'est récemment rendu en France où il a rencontré le président Emmanuel Macron en tête d'une délégation de haut rang et dans le cadre d'une tournée européenne.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Paris Habib Tava, analyste politique, et depuis Moscou, Fabrice Beurre, expert pour l'ONG EODA. Monsieur Beurre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Pourquoi pour la France, le retrait des troupes américaines d'Afghanistan et d'Irak serait une mauvaise idée, Monsieur Beurre ?
Là, j'avoue qu'il faut dissocier l'Irak et l'Afghanistan parce que c'est deux sujets différents. Je vais le remettre dans le contexte plus régional, dans le bloc géopolitique régional, dans le bloc eurasiatique, à savoir que, je terminerai sur la position de Moscou, On ne va pas refaire l'histoire de l'intervention américaine, de l'invasion américaine en Afghanistan suite donc au 11 septembre. Mais aujourd'hui, effectivement, après des années et des années de présence, presque 20 ans de présence, il n'y a toujours pas de solution de stabilisation d'un gouvernement, toujours pas de paix. Et c'est ça, en fait, qui est en jeu. Ce n'est pas que la présence américaine est souhaitable, bien évidemment. Pour autant, s'ils en évacuent tout de suite, il ne faut pas nier que l'instabilité va renaître dans ce pays. Et ce n'est ni à l'avantage des pays voisins, c'est ni pour la Chine d'ailleurs, ni pour le Pakistan, ni pour l'Iran, et encore moins pour les pays de l'Asie centrale et de la Russie par porosité, puisque tout de même il faut reconnaître que ce pays, entre autres le Pakistan en partie pour certains secteurs, pourvoit quand même un certain nombre à une époque et aujourd'hui toujours un certain nombre de terroristes. On a bien vu que dans certaines régions même de l'Afghanistan, il y a la constitution de forces autour qui ont fait allégeance à Daesh. Et donc c'est une question quand même importante. Pour autant, la position, je terminerai dessus, la position de la France sur la question est assez, on va dire, amusante et en même temps très prétentieuse. Amusante parce que, comme Le Drian a indiqué qu'il allait travailler au fait que les États-Unis ne partent pas d'Afghanistan, comme si on lui demandait son avis, déjà, premièrement. C'est toujours, en plus, au dernier, on va dire, toujours après la bataille qu'il arrive, puisque cette question se pose depuis quand même plusieurs semaines. Il est intervenu sur ce qui se passe au Haut-Karabakh quand c'était terminé. Il intervient au Mali quand c'est plus ou moins terminé. Et aujourd'hui, il parle effectivement en disant qu'il va négocier avec les États-Unis pour qu'il reste. Alors évidemment, son clin d'œil, c'est par rapport à la possible nouvelle administration Biden qui va prendre le relais. Pour autant, est-ce que la nouvelle administration va faire une politique différente de celle précédente, à savoir le retrait progressif des États-Unis de la région? Je pense que c'est une volonté américaine. Maintenant, la volonté américaine peut-être aussi, c'est de partir en laissant le chaos afin de créer une zone, on va dire, de confrontation, une zone d'instabilité, ce qui lui va très bien, puisque c'est exactement la zone, l'Asie centrale, qui est une de ses cibles aujourd'hui dans le combat géopolitique mondial. Donc la position de la France sur la question, finalement, elle peut être compréhensible dans cet ordre-là, et on peut à la rigueur, d'une manière diplomatique, la féliciter, mais d'un point de vue pratique, ça n'a aucune valeur en ce qui concerne les décisions qui seront prises.
Merci infiniment pour ces éclairages. Monsieur, vous restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite se rendre à Paris pour rejoindre Habib Tava, analyste politique. Monsieur Tava, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Merci de m'avoir reçu.
Monsieur Tava, et vous, comment expliquez-vous la réticence de la France au retrait des forces américaines d'Irak, mais aussi d'Afghanistan?
Je pense que la chose doit se poser dans le contexte de la situation de la France, qui est un vassal aujourd'hui des États-Unis, et qui donc est un peu le jouet des rivalités qui existent aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a la politique de Trump, il y a la politique à venir de Biden, et évidemment, les Français s'alignent sur la politique de Biden. Ils voudraient rester en Asie centrale et en Irak. Et c'est pour cette raison que les Français ont pris cette position. Par contre, Pompeo, qui débarque, a fait des déclarations il y a quelques jours en disant qu'il pensait que le président Trump allait maintenir sa situation. Évidemment, il semble douteux, mais enfin, on ne sait jamais, étant donné qu'il y a des élections en justice. Et le plus important, c'est de savoir que la réalité du pouvoir aux États-Unis n'est pas celle des autorités officielles, du président, etc. Et on vient de le voir dans une récente déclaration de M. Jeffrey, qui était le représentant des États-Unis pour la Syrie, qui a déclaré ouvertement il y a 3 jours que nous avons plusieurs fois dit aux autorités qu'il y avait beaucoup moins de militaires américains qu'il y en avait effectivement sur le terrain en Syrie. Donc, il y a toujours une opposition entre la position officielle, qui est celle de Trump, et puis celle de ses administrés qui fonctionnent pour l'État profond. Donc, la France fonctionnant du côté de l'État profond américain, lequel est opposé au retrait dans ces deux pays, s'oppose aussi à ce retrait, c'est tout. Et il part de l'hypothèse que Biden va arriver et que donc tout cela sera jeté aux orties, les propositions de Trump. Qu'est-ce qui va se passer dans la réalité? En principe, c'est lié d'une part au fait que Trump, si il a accepté ça, son échec, voudrait mettre le désordre après son départ pour pénaliser l'administration Biden et venir peut-être en victorieux dans 4 ans. Et c'est aussi le fait qu'à certains égards, la politique américaine n'a pas la clarté qu'on veut bien lui prêter. En particulier pour ce qui concerne l'Afghanistan, il est tout à fait probable que les Américains veuillent une victoire des talibans et que donc, à cet égard, un retrait pourrait le favoriser, sachant qu'à long terme, les Américains tablent sur une instabilité en Asie centrale pour déranger aussi bien les intérêts iraniens que les intérêts russes, que les intérêts chinois qui ont intérêt à une stabilité en Asie centrale. Pour ce qui concerne l'Irak, c'est pareil. Un retrait d'Irak favoriserait l'Iran et les Américains du pouvoir central, enfin du noyau central du pouvoir, ne veulent pas entendre parler de ça. Alors qu'il serait évidemment dans l'intérêt de l'Irak de voir un retrait américain. Et je vous signale que ce n'est pas nouveau. Il y a un an bientôt, au moment de l'assassinat du général Soleimani, le Parlement irakien avait demandé le retrait de l'armée américaine. Dans un premier temps, il y a des militaires américains qui ont dit « nous allons nous retirer », puis on a dit « non, ça a été signé, mais ce n'était pas une vraie signature, etc. » Donc il y a tout le temps un aller-retour aux États-Unis et donc dans leur vassal français entre la position officielle du pouvoir et la position réelle de l'État profond.
Merci pour ces éclairages. Monsieur Tavares, restez avec nous. Monsieur Burr, selon l'Élysée, la visite de Mike Pompeo s'effectue en toute transparence avec l'équipe de Biden. Alors, parallèlement, Trump vient de placer des fidèles à des postes importants du Pentagone dans le but apparent d'accélérer le retrait des troupes américaines d'Afghanistan et éventuellement d'Irak. Alors, est-ce que là, premièrement, s'agit-il d'un changement de stratégie de la part des États-Unis? Et deuxièmement, est-ce que la France a anticipé ces événements, sachant que, justement, alors ce retrait pourrait être, en effet, la position et la politique de la prochaine administration américaine?
Pour ce qui concerne l'Afghanistan, ça a toujours été une volonté de s'en dégager. Il y a un phénomène bipartisan aux États-Unis sur cela. Là, il y a des disputes entre deux clans oligarchiques, ok, mais la finalité, le fond, ne va pas changer. Pour autant, effectivement, on peut envisager que les États-Unis aient comme projet, je dis cela d'une manière très diplomatique, de quitter la région afin de créer cette instabilité et permettant de perturber ce qui a été indiqué précédemment et que je rejoins. La région est donc contre les intérêts russes, iraniens et chinois en particulier, parce que certaines routes de la soie passent, on va dire, au nord et au sud de ce pays. Il y a cela aussi effectivement en tête. Pour l'Irak, c'est une autre question, puisque il se pourrait effectivement que, ayant perdu et mauvais perdant, Trump fasse, on va dire, certaines choses qui pourront déplaire à l'administration qui suit, à savoir retirer ses soldats de l'Irak. Pourquoi ? Parce que, effectivement, ça poserait, ça mettrait, on va dire, ça remettrait en difficulté l'administration pour re-avoir, on va dire, une influence dans la région. Alors, il se confronterait effectivement encore à beaucoup de gens au niveau du Pentagone qui sont contre. Est-ce que en un mois, certains vont appliquer les décisions du nouveau ministre, on va dire, de la Défense américain, alors qu'il est là, enfin, qu'il est là pour 2 mois maximum, sachant qu'ils jouent aussi leur carrière après. Donc voilà, on est dans peut-être cette volonté de Trump de vouloir jouer un sale coup. Pour autant, est-ce que ce sera appliqué, c'est une autre chose. Maintenant, évidemment, si les soldats américains partent, c'est renforcer l'influence de l'Iran. C'est ce que ne veut pas également la France, toujours membre de l'OTAN. Et je rappellerai que c'est une stratégie mise en place par la France, par Macron, depuis qu'ils ont compris que la guerre était perdue en Syrie pour eux et que donc il fallait revenir. Ils ont essayé de revenir et ils essayent de revenir par le Liban et ils essayent de revenir par l'Irak, à savoir que s'ils pourraient évidemment placer des armements, ça veut dire des accords en même temps diplomatiques. C'est évident que quand on achète des armes, il y a aussi des accords diplomatiques. Sur le principe, on ne peut ne pas être contre, puisqu'un pays qui se diversifie et qui multiplie ses partenaires diplomatiques, c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'on lui est soumis. Mais pour autant, la France, derrière, effectivement, a comme idée de reprendre une place qu'elle avait avant, d'ailleurs, en Irak. Maintenant, si c'est pour développer ou redévelopper, comme on disait, une politique arabe de la France, ça pourrait avoir du sens. Mais lorsque celle-ci est intégrée dans un pacte, un partenariat transatlantique, comme l'affirme sans arrêt le ministre Le Drian en France, qui est l'homme des Américains dans le gouvernement français, il faut le savoir, puisqu'il était là sous Hollande, il est là sur Macron, et il est soutenu presque par tous les partis politiques en France, donc il y a une sorte de consensus, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle un young leader, vous savez, c'était les gens qui ont été formés par les Américains, leur réseau. Et bien, il en fait partie, monsieur Le Drian. Donc, voir un ministre des Affaires étrangères nous parler effectivement de rééquilibrage et sous-entendant une nouvelle politique arabe de la France, ça pourrait s'entendre. Mais lorsqu'on sait l'arrière-plan et que tout cela n'est qu'un décor, on peut évidemment imaginer que c'est la France qui voudrait jouer le rôle que les États-Unis ne veulent plus. Mais c'est très prétentieux. Faudrait-il encore en avoir les moyens, les capacités et surtout l'écoute? Qui peut aujourd'hui prendre, on va dire, et surtout dans les ventes des armements, très au sérieux la France avec l'affaire des frégates qui n'avaient pas été vendues aux Russes? Il y a quand même une perte de crédibilité vis-à-vis, on va dire, de la classe politique française en général. Alors, pour résumer et pour terminer sur cette question, oui, que la France vienne en Irak et essaye, en se disant on va essayer de placer nos pions, parce qu'il y a aussi des querelles dans le même clan, on va dire, dans le camp occidental, chacun aussi ont des fois des intérêts, ils essayent de placer leurs pions, mais lorsque la France fait partie de l'ensemble impérialiste américain, elle ne remet pas en cause l'OTAN, et que vous avez Le Drian qui dit qu'il espère reconstruire le partenariat atlantique, c'est assez révélateur. C'est-à-dire que on hausse le ton, mais on ne changera pas notre direction, à savoir on est toujours sur la direction de Washington. Donc généralement, lorsque vous voulez discuter, il faut toujours discuter avec le chef, pas avec son adjoint en général, pour avoir des décisions concrètes. Donc la position de la France, c'est essayer de tenter de reconstruire quelque chose dont on n'en a ni les moyens et en plus ni la volonté d'ailleurs sur le fond de le faire. Une politique arabe de la France, c'est terminé. La France gaulliste, c'est terminé depuis qu'elle est retournée totalement dans l'OTAN.
Merci infiniment. Une toute dernière question à M. Tava. M. Tava, étant donné les marges de manœuvre extrêmement limitées de la France, justement, sur sa position en Afghanistan et en Irak, quel rôle la France pourrait jouer justement après le retrait des troupes américaines?
D'abord, il faudrait qu'il y ait un retrait de troupes américaines, mais tout ce qui apparaît dans cette histoire, c'est qu'actuellement, Le Drian, qui a toujours été le représentant des intérêts économiques français, beaucoup plus que le représentant d'une politique à vision large, voudrait vendre des missiles à longue portée, comme on a dit, et des rafales. Je remarquerai au passage que les missiles à longue portée, à l'époque où Saddam était au pouvoir, on a fait des pieds et des mains pour l'empêcher d'en avoir, et puis aujourd'hui on veut en vendre parce que finalement, comme disait Lénine, le capitaliste veut vendre jusqu'à la corde qui servira à les pendre. À la fois, il ne voulait pas que l'Irak ait des missiles à longue portée, aujourd'hui ils veulent leur en vendre. C'est assez ironique au terme.
Donc, alors là, les objectifs de la France seraient différents en Afghanistan et en Irak. Et en Irak, il s'agit
ils
plutôt...
Ils sont essentiellement économiques. Pour moi, ils sont essentiellement économiques. Dans la mesure où les États-Unis resteraient en Irak, la stabilité permettrait beaucoup plus facilement de vendre des armes plutôt que d'avoir un nouveau gouvernement dont on ne sait pas s'il sera un allié ou pas un allié. Les Américains sont là, ils stabilisent la situation. On prend une part du marché, on dit merci messieurs, et puis c'est fini.
On va terminer cette émission avec M. Beurre. M. Beurre, Alors, dans quelle mesure, justement, la France, en général, dans la région du Moyen-Orient, pourrait prendre le relais? Est-ce que là, il s'agit dans, la, dans, dans, dans l'objectif, dans le strict objectif des intérêts économiques de la France?
Oui, alors je vais faire le naïf, c'est-à-dire que j'imagine que la volonté française serait d'un seul coup de retrouver une part de souveraineté, de reconstruire une diplomatie. Il le faut avec toutes les erreurs, hein, les caricatures, etc., toutes les erreurs qu'a fait la France vis-à-vis de, d'une certaine partie du monde. Et donc nous avons aujourd'hui une position qui serait... on reprend une politique traditionnelle de, pas de neutralité, mais de partenaires différents qui ne tient pas le même, qui ne tiendrait pas le même discours, qui chercherait donc à apporter une pluralité dans les relations, dans les partenariats diplomatiques, militaires, économiques. Alors ça, oui, sur le principe, je ne peux pas être contre, que ce soit la France, que ce soit notre pays, peu importe, c'est la pluralité, les échanges et le commerce, généralement, ça doit apaiser. Le monde et résoudre les soucis, les questions, les problèmes dans le cadre du dialogue qui est instauré justement par cette pluralité, cette, comme on dit aujourd'hui, multilatéralité. Mais bon, sauf que, je le répète, je cite une phrase de Le Drian qui dit que, il parle pour la suite, je le cite là, « Nous avons beaucoup à faire ensemble dans une relation transatlantique qui reste essentielle et qui doit être renforcée et rééquilibrée. » Mais qu'est-ce que le transatlantisme ? C'est-à-dire la soumission à l'OTAN, et l'OTAN, qui sait qu'il commande, ce sont les États-Unis. L'OTAN est l'outil de contrôle politico-militaire de l'Europe sur sa première des colonies, à savoir les pays européens. Et lorsque vous avez un ministre des Affaires étrangères et qui est toujours en charge de l'armement, même s'il n'est pas ministre de la Défense, hein, puisque c'est lui qui décide de cela en réalité, c'est un homme de réseau, eh bien, vous avez, tout est dit, vous avez quelqu'un qui vous dit que je place ma politique étrangère dans le cadre de l'OTAN, et de toute façon, comment pourrait-il en être autrement, puisque la politique étrangère aujourd'hui, c'est pas indiqué très clairement comme ça, mais puisque la défense aujourd'hui, dans le cadre des traités européens de cette Union européenne, il est indiqué très clairement que c'est l'OTAN qui mène cette action. Donc vous avez, entre la réalité sur le terrain et vous avez qui fait que c'est l'OTAN qui décide, donc c'est les États-Unis qui donnent la ligne, même s'il peut y avoir des frictions ici ou là, ça n'empêche que c'est toujours l'OTAN qui domine, et c'est toujours Washington, et il peut y avoir de belles déclarations. Ça ne changera pas que Biden revenant, il ne va pas laisser des parts de marché, par exemple pour des ventes d'armes, ou il ne va pas laisser la place à la France. Même en Afrique, où la France fait le shérif pour les États-Unis essayent de se tailler une part de lion et de laisser que des miettes à la France dans ce combat impérialiste. Donc aujourd'hui, comme toujours, on voit bien que la politique occidentale, et en particulier la politique macronienne, c'est de la com, mais derrière, il n'y a pas grand-chose, parce que si la France avait une politique, une diplomatie forte et cette volonté de l'appliquer, eh ben, elle n'aurait pas plié devant les sanctions américaines contre l'Iran, elle n'aurait pas baissé les bras, elle aurait pris sous son bras, sous sa protection, les entreprises françaises qui faisaient donc des affaires en Iran, et à ce moment-là, elle aurait politisé le débat, les sanctions n'auraient pas pu être appliquées puisque c'était directement contre l'État français, mais il aurait fallu à ce moment-là faire face à face à Washington, et ce n'est pas effectivement aujourd'hui avec cette classe politique française qui est menée par le parti américain qu'on va avoir une opposition par rapport à la politique des États-Unis.
Fabrice Feuer, expert pour l'ONGO depuis Moscou, Habib Tava, analyste politique depuis Paris. Merci infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Razvin est une province de l'ouest de l'Iran. Selon d'anciennes sources historiques, la fondation de Razvin date de la période Mède, au 9e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, la région montagneuse du sud et du sud-ouest de Razvin appartenait au territoire Mède. Cependant, les fouilles archéologiques menées dans la région, notamment à Sarez-Abad, près de Bein Zahra, montre que Razvin était déjà habitée durant les 4e et 5e millénaires avant Jésus-Christ. Le plus ancien document mentionnant Razvin précise que le nom de la région est alors prononcé Keshvin. Dans son Futuhul Baldan, Abdullah Mostofi, géographe du 11e siècle, cite également le nom de Keshvin, tout en précisant que les Arabes ont arabisé le nom pour le transformer en Razvin. Il existe deux théories principales concernant l'étymologie de Razvin. L'une relie ce nom à celui d'une citadelle se dressant autrefois à l'emplacement de l'actuelle ville de Razvin, l'autre le relie à la Caspienne. Selon la première théorie, autrefois, les habitants des hauteurs du nord de la région avaient un côté querelleur et pillaient les villages de la plaine en contrebas. Les villageois de la plaine excédés finirent par édifier deux citadelles. La première fut bâtie sur les piémonts au nord de Razvin et la seconde, plus grande et mieux équipée, à l'emplacement de l'actuel centre-ville de Razvin. La seconde citadelle abritait notamment les armées défensives de la plaine contre les pilleurs montagnards. Pour nommer ces deux citadelles, les habitants n'ont pas cherché loin. Celle qui était sur les piémonts a été nommée citadelle haute, Udejbala, et la deuxième citadelle basse, Udejpain. Au fil du temps, Udejpain a changé de forme. Il est devenu d'abord Dejbin, puis Keshvin, puis enfin Keshvin, pour se transformer finalement en Razvin. La seconde théorie voit dans Razvin une autre manière de prononcer Caspien. Une troisième théorie, défendue par quelques lettrés persans au début du XXe siècle, traduit Razvin en terre de lapistache. En effet, selon Dehoda, qui est d'ailleurs originaire de cette ville, Razvin se prononçait autrefois Kezovin, mot composé de Kezo, lapistache, et de In, la ville. Ainsi, la ville de lapistache aurait été plus tard arabisée pour devenir Razvin. Les recherches archéologiques montrent que la province de Razvin a été témoin de la sédentarisation et du développement de l'agriculture dès le 7e millénaire avant Jésus-Christ. Les habitants avaient un artisanat relativement perfectionné et un système social proto-urbain. Des habitations, des temples, des ateliers, des objets décoratifs, des statuettes et d'autres objets découverts lors de fuites montrent l'installation et la sédentarisation de peuples anciens dans la plaine de Razvin il y a plusieurs milliers d'années. Les recherches archéologiques, notamment menées à Tapé Sarez-Abad, près de la Bein Zahra, ont également montré que de nombreux groupements différents se sont succédés dans la région. Plusieurs autres collines préhistoriques, récemment découvertes près de la route Karaj-Razvin, fournissent de précieuses informations sur la vie des habitants de la région durant le 4e millénaire avant Jésus-Christ.
Les historiens estiment que la région de Razvin appartenait au territoire des Caspiens. Et des linguistes pensent que le nom Razvin serait un dérivé de Caspienne. Mais c'est en particulier durant la période Mède, au 9e siècle avant Jésus-Christ, que la région prend une grande importance. Elle deviendra ensuite une étape incontournable sur la route de la soie passée dont témoigne aujourd'hui la vingtaine de caravansérails antiques et historiques que l'on peut visiter dans cette province. La province de Razvin fut conquise par les troupes arabes vers le milieu du 7e siècle. La bataille fut courte mais importante en raison de l'importance géostratégique de la ville. Des révoltes sporadiques éclatèrent dans cette région pendant près d'un siècle et demi, obligeant les califes omeyyades et abbassides à montrer une attention particulière à cette province. Des révoltes historiques d'importance eurent lieu, notamment la révolte des Alawites qui commença en l'an 791 et dura une vingtaine d'années. Dès le 3e siècle de l'Égire, l'importance de Razvin en fait une région administrative indépendante et séparée de Harar Ajam. Après les Abbasides, Razvin devient une province taïrite. Suivent les dynasties des Bouyides, des Ilkhanides, des Seljoukides, puis la parenthèse du régime ismaélite remplacée par les Safavides qui font de la ville de Razvin leur capitale pendant 57 ans. Durant cette période, la nouvelle capitale se développe notamment et de nombreux faits historiques d'importance y ont lieu. Après la chute des Safavides et la période de chaos qui suit, c'est au tour de Nader Shah Afshar de régner, puis suivent les Indes et les Rajars. La période Rajar est également remarquable dans le développement de la ville et de la province sous l'impulsion du gouverneur Sadol Saltani. Finalement, Razvin et ses intellectuels tels que Aref Razvini, Ashrafeddin Hosseini, éditeur du journal Nassim et Shomal, et Mirza Hossein Hayat Farnia joue un rôle fondamental durant la révolution constitutionnelle qui dura de 1905 à 1911. Razvin est choisi comme capitale de l'empire Safavide par Shah Tahmasp en 1546. Elle restera capitale pendant plus d'un demi-siècle. À partir de cette date, la ville prend un titre royal et devient la Dar-o-Saltané de Razvin. Malgré les changements de capitale, ce titre demeure jusqu'à la période Rajar, au début du XXe siècle. Selon les documents historiques, la ville de Razvin a été fondée à l'époque sassanide. Shapur, roi sassanide, a constitué cette ville pour empêcher les Daylamites d'attaquer l'Iran. C'est la raison pour laquelle il y construit des forteresses et des fortifications et y a installé ses armées. La base militaire de Shapur s'est progressivement développée et a formé le nœud central de la ville. Après l'occupation de l'Iran par les Arabes, Razvin, en tant que base de la dynastie sassanide, empêchant les Daylamites d'attaquer l'Iran, est devenue une base militaire au service des Arabes pour leurs opérations militaires contre des régions et pays voisins. De la fin du XIe siècle à l'attaque de Hulagu-Khan, des forteresses des Ismaélites, Razvin fut sous l'influence des événements liés au mouvement de Hassan Sabbah et de ses successeurs. La ville souffrit notamment de longues guerres entre l'armée de l'État iranien et les Ismaélites. À l'époque Safavide, devenant la capitale du pays, la ville prospéra et on y construisit plusieurs édifices majeurs. À l'époque Rajar, bien que Téhéran devint la capitale de l'Iran, Razvin conserva une importance politique et commerciale, notamment du fait de sa situation sur la route reliant Téhéran à l'Europe et à la Russie.